Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Yann. C'est tenu du vendredi 12 au dimanche 15 avril à l'espace Saint-Pierre à Senlis, le 17e salon Printemps des Arts, organisé par l'association Art et Amitié et la ville de Senlis. Cette année, le salon avait pour thème l'élégance. Au programme, art graphique, sculpture, photographie et artisanat d'art. À mes côtés, nous avons la présidente de l'association, Madame Maryse Montignon. Bonjour.
Bonjour. Nous avons un superbe salon cette année avec plus de 70 exposants, des sculpteurs, des peintres, des photographes. Et nous avons aussi une dizaine d'artisans d'art qui sont là pour répondre à vos questions. Et nous avons réuni toutes ces œuvres dans l'espace Saint-Pierre.
Heureuse d'être de nouveau dans ce lieu.
Absolument, nous attendions la réouverture de ce lieu somptueux qui a été en travaux pendant 8 ans.
Donc comme tous les ans, vous privilégiez les artistes locaux ?
Absolument, mais nous avons élargi un petit peu le recrutement des artistes. Nous sommes allés durant toute cette période hivernale dans différents salons pour recruter de nouveaux artistes. Et cette année, nous en avons 27 nouveaux par rapport aux années précédentes.
Qui viennent
Ils viennent des départements Val-d'Oise, Seine-et-Marne. Nous allons aussi faire un salon des arts d'été au Prieuré Saint-Maurice, avec un petit peu moins d'artistes et sans artisans.
Vous teniez à faire des remerciements.
Oui, je tenais absolument à faire des remerciements auprès de la ville de Senlis qui nous accorde un lieu somptueux, historique et magnifique pour organiser nos expositions. Nous remercions à Madame Pascale Loiseleur, maire de la ville de Senlis. Merci à Madame Robert des affaires culturelles et des associations. Merci aussi à Madame Marchetti et Madame Moulard qui organisent nos documents.
Au niveau de la fréquentation, Madame Montignon, vous étiez satisfaite ?
Oui, nous avons eu un bon début de fréquentation des visiteurs. Nous espérons atteindre le même nombre que l'an dernier. Au mois d'août, nous avions eu plus de 2900 visiteurs.
Si les auditeurs sont intéressés pour rejoindre votre association, Madame Montignon, comment font-ils ?
Alors, nous avons une adresse mail qui est artetamitiesenlis@orange.fr. Sinon, vous avez la possibilité, nous sommes aussi sur Facebook et nous donnons des informations régulièrement.
À mes côtés, nous avons Sandrine Badeuil.
Bonjour.
Donc vous êtes restauratrice de tableaux.
Oui, je suis restauratrice d'œuvres d'art, donc je restaure essentiellement des peintures. Il me tient à cœur de sauvegarder le patrimoine familial et religieux. Donc je m'occupe des tableaux des particuliers essentiellement et je travaille avec les communes. Également parfois des antiquaires. J'ai présenté une conférence ce matin sur la restauration de deux œuvres religieuses du XVIIe siècle. C'était l'occasion pour moi de sensibiliser les gens à la sauvegarde du patrimoine en général et de leur faire découvrir mon métier.
Quelles œuvres vous avez abordées durant la conférence ?
Alors, une première œuvre qui représente Saint-Joseph et l'enfant Jésus et qui est un tableau de l'église d'Avilly-Saint-Léonard, donc situé juste à côté de Senlis, et une autre œuvre représentant le martyr de Saint-Sébastien, qui est également une œuvre du XVIIe siècle et qui provient d'une petite église dans l'Orne et qui se situe au cœur de la Suisse normande.
Donc restauratrice de tableaux, c'est un petit peu comme médecin chirurgien, puisque au départ vous faites un diagnostic de l'œuvre.
Absolument, d'autant que dans ma première vie, j'ai exercé 17 ans la médecine. Donc j'ai abordé ce métier avec la même bienveillance et la même démarche.
Concrètement, comment vous faites pour restaurer une œuvre selon l'état dans lequel vous la trouvez ?
Alors, il y a un premier temps d'examen qui me permet de voir quels sont les matériaux de l'œuvre. Ensuite, d'identifier les altérations, quels sont les bobos, pour pouvoir identifier ensuite leurs causes. Ce sont parfois des œuvres qui ont été abîmées simplement par les outrages du temps. Parfois, ce sont des causes accidentelles, comme des incendies, des dégâts des eaux, des mauvaises manipulations. Et également, il est intéressant d'identifier les campagnes antérieures de restauration, parce que ça raconte l'histoire matérielle du tableau. Et nous devons également en tenir compte dans nos restaurations. Voilà.
Parce qu'une œuvre, ça peut être restauré plusieurs fois.
Une œuvre peut être restaurée plusieurs fois. L'idée, c'est d'intervenir de manière minimale, mais avec des produits stables et réversibles dans le temps pour garantir une restauration qui pourra durer, nous l'espérons en tout cas, avec les produits que nous choisissons, 50 ou 100 ans. Dans le meilleur des cas, plutôt 50 ans pour les œuvres d'église qui sont exposées à des conditions environnementales un petit peu plus rudes, et une centaine d'années pour les tableaux des particuliers, parfois des musées ou des œuvres qui sont gardées en réserve.
D'accord.
Dans des bonnes conditions.
Bien sûr. Est-ce que ça coûte cher de restaurer une œuvre ?
Eh bien, c'est difficile de répondre à cette question puisque tout dépend du degré des altérations. Tout dépend également de la taille du tableau. On peut avoir des très grands tableaux qui n'ont pas grand-chose et des petits tableaux qui ont beaucoup de choses.
Outre la conférence que vous avez tenue ce matin, vous avez tenu un stand également ce week-end ?
Oui, j'ai présenté mon travail, mes outils, également des méthodes d'introspection préalables à certaines restaurations, des examens sous rayonnement ultraviolet, infrarouge, mais également des radiographies.
Et quels outils précisément vous avez exposés ?
Alors, ce sont des outils qui nous permettent essentiellement de travailler en finesse sur des travaux de précision pour la reprise de déchirures ou d'incrustations de toile quand certaines toiles ont été abîmées et sont lacunaires. Nous utilisons soit des petits outils qui sont spécialement destinés à la restauration, mais aussi des outils qui ont été récupérés d'autres domaines, comme des petits outils de dentiste, des petits outils de couturière, des outils de tapissier également.
Artisanal en fait.
Ah bah oui, c'est un métier effectivement où la main doit être éduquée à des gestes très contrôlés et très précis.
Si les auditeurs veulent retrouver votre travail ou en savoir un peu plus sur vous, où vont-ils ?
À Villy-Saint-Léonard, www.atelierbadeuil.com. Merci à vous également.
À mes côtés, nous avons monsieur Éric Fournier. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes artisan, tabletier, graveur.
Tout à fait, voilà. Je suis tabletier et maintenant de plus en plus graveur. Je grave en même temps donc la nacre, parce que je grave la nacre. Mais je travaille aussi le métal maintenant, le laiton, et je grave le laiton et après j'imprime moi-même mes estampes. D'accord. En tirage limité, numéroté.
Quoi. Votre métier, comme vous le dites un petit peu dans la bio, là, montrer qu'on sait faire des choses avec les mains.
Ah ben, moi je trouve très important le fait qu'on puisse remettre en valeur le travail manuel. C'est clair qu'on l'a tellement dévalorisé qu'il est heureux de pouvoir voir que maintenant des jeunes s'intéressent à ça. Et je pense qu'il faudrait encore plus le développer. Les jeunes ont besoin de savoir qu'ils sont capables de faire des choses de leurs mains. Le travail de la main, c'est vraiment quelque chose de très utile.
Vous êtes basé à Saint-Paul ?
Je suis à Saint-Paul, oui, à Cornouaise, à côté de Beauvais, sur la route de Gournay.
Vous l'avez dit tout à l'heure, mais la fonction c'est tabletier. Mais vous pouvez la préciser un petit peu plus ?
Le tabletier, c'est quelqu'un en antiquité qui découpait des tablettes, soit en ivoire, soit en bois, et qui mettait de la graisse dessus, et qui après, avec un stylet, venait écrire. Les tabletiers ont réussi à conserver leur appellation de tabletier, en fait, 1740, je crois, et ils ont réussi à garder le droit de pouvoir travailler l'os, le bois, la corne, l'écaille, toutes les matières naturelles. Donc après, ils se sont diversifiés, ils ont fait beaucoup de boîtes, de peignes, de boîtes de jeux aussi, des jeux de jonchets, des jeux de domino, des jeux de... Voilà.
Vous avez animé, durant le week-end, une conférence également ?
Oui, j'ai fait une conférence sur la tabletterie et sur les éventailistes du pays de Tell, parce que c'est vrai que c'est une région qui me tient à cœur. La ville de Sainte-Geneviève, c'est vraiment un lieu trop méconnu pour son savoir-faire. Il faut savoir qu'entre 1820 et 1880, ces éventailistes ont produit près de plus de 90% du marché français. Tout ça partait dans les cours du monde entier, mais on ne savait pas que c'était les tabletiers dans notre ville qui le faisaient, parce que c'était des gens qui travaillaient pour les tabletiers parisiens. Donc ils faisaient les montures partaient à Paris. Les tabletiers parisiens mettaient une feuille, les faisaient peindre par des artisans. On mettait toujours plus en valeur la feuille que la monture. Alors qu'il faut savoir qu'une monture, des fois, pouvait prendre un mois de travail et pouvait coûter, ce qu'on disait à l'époque, le salaire annuel d'un cocher. Donc c'était vraiment quelque chose de très prestigieux.
Le Pays de Tell, on l'a précisé aux auditeurs, mais c'est vers Mérus, c'est ça ?
Le Pays de Tell, c'est autour de Mérus, c'est ça, voilà. Donc c'est pas très très grand, c'est 25 km autour de Mérus. Hein. Ça va de Bornel, de Sainte-Geneviève, d'Anneville, de La Boissière. Ça va aussi près de Mouilly aussi, parce que c'est vrai qu'autour de Mouilly, on faisait beaucoup de brosseries. Donc ça peut être Covigny, brosse. C'est toute cette région qui, très très tôt, avant de travailler la nacre, travaillait déjà le bois, l'os, la corne. Des petits villages comme La Boissière, par exemple, travaillaient la corne et faisaient ce qu'on appelle les verres de lampe pour la marine à l'époque. C'était de la corne. Et puis après, d'autres gens se sont diversifiés pour faire du bouton. On a beaucoup fait de boutons sur Méru, mais il faut savoir que Méru était plutôt un lieu de grosse production où on a commencé à montrer les grosses usines. Les premiers graveurs et tabletiers qui étaient vraiment de renom étaient vraiment plus basés sur Anneville-Sainte-Geneviève. On a vu jusqu'à 400 graveurs entre Sainte-Geneviève et Anneville.
Si les auditeurs veulent retrouver votre travail, Monsieur Fournier, ils se rendent où ?
Soit sur mon site internet, qui est www.nacrepassion.com. C'est nacre-du-6-passion.com. Ils peuvent m'envoyer un mail, c'est eric.fournier2@orange.fr. Merci, au revoir. If we knew the secrets of the skies from
restricted zones and the private eyes. Nous avons monsieur Jacques-Marie Broust. Alors vous êtes luthier amateur en instruments anciens à Senlis.
C'est exact. Alors, comment m'est venue cette idée de passion ? Donc, c'est comme les passions, il y a toujours un petit événement. Dans le premier temps, donc, dans une fête à Lorient, donc, j'ai rencontré donc, un homme qui proposait un kit de harpe. Ensuite, j'ai trouvé donc, un kit de luth. Après, ça m'a permis d'acquérir une méthode de construction. Puis, avec une passion qui est un petit peu naissante, eh bien, j'ai commencé à faire quelques instruments. Et puis, à partir du moment où la passion, donc on tient un bout de ficelle, et puis après, on en veut une plus grosse, etc. Et puis, finalement, de un instrument à deux, à trois. Et puis maintenant, j'ai peut-être une quinzaine d'instruments. Donc là, ici, à l'exposition, il y a une dizaine d'instruments. Tout instrument donc, à cordes, en bois, à manche.
Donc, c'est des instruments médiévaux et ensuite de l'époque baroque également.
Voilà, de médiévaux, c'est-à-dire à partir en gros de l'an 1000, puis jusqu'à l'époque baroque, c'est le 17e siècle, entre les deux renaissances. Alors les instruments médiévaux sont relativement simples, souvent c'est uniquement avec monoxyle, c'est-à-dire avec un seul morceau de bois donc, qui est creusé. Les instruments baroques, c'est plus avec des lamelles de bois qui sont cintrées, telles que le luth, telles que les guitares baroques. L'époque baroque est une époque où les instruments donc, étaient très décoré et notamment les guitares baroques avaient donc une rose à l'intérieur. Ça fait une sorte de dentelle en plusieurs étages et qui sont fabriquées à partir de parchemin. Le parchemin, donc, c'est une matière que je présente ici, une guitare baroque qui est d'époque vénitienne, donc, qui a été fabriquée donc, vers 1650.
S'il y a un instrument phare que vous avez exposé ce week-end, ça serait lequel pour vous ?
Alors celui qui a le plus de succès, c'est la chiffonie, parce que c'est un instrument donc avec la manivelle, on tourne la manivelle et puis ça forme un son. Donc aussi bien les gamins que les adultes, ils sont étonnés donc de en tournant une manivelle. Et donc c'est l'ancêtre de la vielle à roue.
Vous jouez vous-même de ces instruments ?
Je sors des sons, mais je suis un piètre musicien. Alors dans les instruments médiévaux, les mélodies sont très simples avec 4, 5 notes, 6 notes, comme ça qu'on répète une fois, deux fois avec une variante entre les deux. On fait quelque chose d'assez petit peu spectaculaire, les gens sont émerveillés. Dans les ensembles qui se baladent dans les rues, dans les fêtes médiévales, c'est pas très compliqué. Donc ce sont des mélodies relativement simples qui sont répétées plusieurs fois.
Si les auditeurs veulent retrouver votre travail, ils veulent se rendre sur un site qui s'appelle la gouge et le rabot.
Oui, la gouge et le rabot, c'est deux outils, parce que sous les instruments médiévaux, donc on part d'un gros bout de bois et puis il faut le raboter et puis le creuser. Pour creuser, c'est une gouge et puis le raboter, c'est un rabot. Puis je remercie aussi les visiteurs qui ont apprécié ce que j'ai présenté parce qu'ils ont découvert plein de choses.
Jean-Paul Roum.
Donc vous venez, messieurs, de visiter l'exposition ?
Absolument, oui. Comme assez régulièrement depuis quelques années, on constate l'amélioration constante, si je puis dire, de la qualité des exposants et de leurs œuvres. Il y a une très belle diversité, il y a vraiment un mélange de styles étonnant. Et puis il y a aussi la présence des artisans qui permettent d'apporter une diversité supplémentaire aux œuvres exposées, avec beaucoup de diversité là encore, puisqu'on va de la dentelle de chantilly à la poterie locale, les émaux, les peintures sur soie. Non, il y a vraiment beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses à commenter.
Une œuvre ou un atelier en particulier que vous avez apprécié plus que les autres ?
Pas vraiment, mais il y en a plusieurs qui retirent vraiment de l'attention. Il y en a qui sont très réalistes. Il faut venir à Senlis voir l'exposition, je pense.
Voilà, c'était Yann. J'étais donc ce samedi 14 avril à l'espace Saint-Pierre à Senlis pour le 17e salon Printemps des Arts, organisé par l'association Art et Amitié. Ce salon avait pour partenaire le magasin Le Géant des Beaux-Arts. Merci à vous pour votre écoute, les auditeurs. Au revoir.
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.